Bienvenue à Sans Détour. Cette semaine, on reçoit Charie Rousseau, qui est actrice dans la série Vestiaire. On reçoit également Véronique Vézina, directrice générale du regroupement des organismes de personnes handicapées de la région, la capitale nationale. Et également Amy Foster, responsable de la politique et du plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour 2024-2026 dans la ville de Bécamo. On commence l'émission avec Charie Rousseau. Bonjour, Charie.
Allô, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, merci.
Charie, je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît. Oui. Tu es avec nous pour la série Vestiaire qui aura une deuxième saison.
Oui, exactement. Ça va sortir dès le 9 avril prochain sur les ondes de Amitélé.
Donc, ce sera le mercredi à 20h. Peux-tu nous parler, en fait, de ton expérience au niveau de la deuxième saison? Qu'est-ce qui se passe avec ton personnage?
Oui, bien, c'est une bonne question. C'est sûr et certain que j'ai l'impression que cette deuxième saison-là, on se permet d'aller plus loin. Sans dire que la saison 2 sera plus drôle que la première, mais un peu, genre, parce que, bon, nos personnages se connaissent beaucoup mieux. Nous-mêmes, en tant qu'acteurs aussi sur le plateau, on se connaissait davantage. Donc, il y avait une belle liberté, des beaux fous rires également. Je pense donc que cette deuxième saison, ben, on a une belle évolution de tous nos personnages. Pour ce qui est du mien, Catherine, on apprend à plus la connaître, mais aussi plus connaître son, je dirais, son caractère, dans le fond.
Oh, elle va avoir un peu plus de caractère dans la deuxième saison.
On peut dire ça comme ça. Okay. On peut dire qu'elle dit haut et fort ce qu'elle pense. Et que, oui, il va avoir du nouveau avec elle.
OK, on s'assume plus.
Oui, c'est ça.
OK, je vois. Et toi, là, si je ne me trompe pas, Charie, c'était ta première expérience en tant qu'actrice à la télévision. Hein?
Oui, exactement. Ma première expérience dans une fiction, plutôt. Puis, ben, c'en est toujours une très belle. D'ailleurs, il n'y a pas de saison 3 de confirmée pour l'instant, mais on s'entend qu'on aimerait ça.
On va y travailler. On va y travailler, Charie. On va faire des appels.
Oui, exact.
Puis toi, comme actrice, est-ce que tu sens que tu as évolué entre les saisons?
Ah ben oui, c'est sûr que même à ce niveau-là, il y a une belle évolution pour moi-même et tous mes collègues sur Vestiaire, mais c'est sûr que personnellement, je peux te dire qu'il y a une belle évolution, ne serait-ce que d'être plus à l'aise, évidemment. Aussi, une amélioration, je pense même là qu'on me dit, entre le début des tournages de la saison 2 et la fin, donc dans la même saison, on pourrait voir une belle évolution de mon personnage.
Et puis, de ton côté, donc, tu es atteinte d'une malformation au niveau des membres.
Oui.
Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, de pouvoir jouer dans Vestiaire? Est-ce que ça t'a apporté plus de visibilité pour tes projets?
Notamment, oui, c'est sûr et certain que Vestiaire, depuis le début, c'est une belle visibilité. J'aime beaucoup les valeurs, d'ailleurs, qui en décollent, puis j'adore ce projet. C'est sûr que oui, la visibilité également, ben en fait, j'ai commencé à faire notamment des conférences dans les écoles pour pouvoir continuer à véhiculer mon expérience, mon parcours aussi, un peu ma vie là, avec beaucoup d'humour. Fait que tu sais, ça apporte plein de beaux projets professionnels.
Et puis, en même temps, est-ce que tu trouves que, j'imagine qu'on te pose souvent la question, mais est-ce que tu trouves que ça fait avancer les questions sociétales par rapport aux droits des personnes en situation de handicap de vous voir à l'écran?
Bien, je pense que oui, ça va avoir un impact depuis longtemps, que ce soit Vestiaire, ça faisait longtemps qu'on essayait d'amener ce concept-là au Québec, puisque c'est une adaptation de la France. Puis je vais dire d'autres concepts similaires. On est dû, là, les Québécois sont prêts. Moi, quand je croise des Québécois, des gens qui me reconnaissent justement pour Vestiaire, je n'ai que des commentaires positifs. Il y a des gens qui me disent que c'est leur coup de cœur de l'hiver, que c'est leur découverte. Évidemment, c'est sûr qu'en ayant une diffusion sur les ondes de Radio-Canada, il y a eu donc un ravivement de ce côté-là, en plus des gens qui l'avaient déjà vu sur Amitélé. Mais les gens adorent, on me dit qu'il n'y a pas assez d'épisodes. qu'on préfère ça à certains téléromans qui jouent également à la télé. Donc, ça l'a vraiment assez bien reçu. Puis, les gens en veulent plus. T'sais, on est rendu là dans le monde, dans le paysage télévisuel québécois.
Il y a quand même eu un gros engouement autour de la série, hein. Alors que Ami Télé, c'est peut-être comme moins connu, mais vraiment, là, ouais, cette série-là a vraiment fait connaître Ami Télé beaucoup plus, j'ai l'impression, puis vous êtes même allé jusqu'à Tout le monde en parle, jusqu'à Radio-Canada. Donc, ça montre un intérêt de la part des téléspectateurs, des téléspectatrices, d'avoir quelque chose de différent à des visions.
Ben oui, exactement. Je pense que il y a vraiment aucune raison pour laquelle Vestiaire n'est pas apprécié. C'est un beau projet. Ça met la diversité à l'écran. Des parents qui m'ont dit que ça leur permettait d'avoir des belles discussions après chaque diffusion avec leurs enfants, avec leurs ados. Donc, ça met de la diversité. Puis, c'est sûr que ça fait avancer la cause des personnes qui ont un handicap aussi, dans le sens où peut-être des gens qui ne jouent pas nécessairement dans Vestiaire, mais qui peuvent s'identifier à l'émission, puis à nous, puis aussi, ben, juste enlever les limites potentielles qui pourraient se mettre à eux-mêmes, dans le fond.
Oui, puis j'ai l'impression que ça normalise aussi le fait d'être en situation de handicap, c'est-à-dire qu'on a des défis comme tout le monde, mais dans les faits, on est des personnes tout à fait normales avec des relations amoureuses, avec des amis, avec des vies. Tout ce qu'il y a de plus normal, et j'ai l'impression que des fois, c'est oublié, ça.
Oui, exactement, c'est ça. Puis de le voir à travers Vestiaire, la saison 1, tant la saison 2 qui va jouer éventuellement, on suit ça aussi, tu sais, certains des personnages en ont des relations amoureuses, puis évidemment, les relations, tout simplement, c'est un sujet dont on parle. Donc, ça permet de voir, je pense, à travers cette émission-là, que nous aussi, on a une vie normale, dans le fond, là, même avec une différence.
Effectivement, puis je pense que ça fait quand même avancer le débat puis les mentalités des gens. De ton côté, est-ce que je sais que tu parlais, parce que entre autres, je t'ai reçu dans mon balado, puis toi, ta journée, là, dans un de mes épisodes, et tu parlais de ton désir de devenir actrice, d'avoir plus, je devrais dire, d'avoir plus de projets en tant qu'actrice. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est concrétisé ou pas encore?
Oui, puis non, c'est sûr que, ben, écoute, travailleur autonome, hein, on a plein de projets, puis on court partout, d'autres fois un peu moins. Oui, il y a des beaux projets sur la table, puis je veux dire, c'est sûr et certain qu'il y a encore du chemin à faire, là, je te cacherai pas, la journée que tu vas me voir dans un premier, un deuxième rôle à la télé, puis que c'est pas pour mon handicap, là, on va pouvoir dire qu'on a gagné une victoire. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais on espère que ça puisse toujours se produire au cours des prochains mois, idéalement, tu sais.
Oui, puis tu sais, je me rappelle que tu me disais, j'aimerais jouer justement dans une série où je ne joue pas une personne handicapée, je joue quelqu'un comme un médecin, par exemple, puis je suis dans la condition que je suis comme une personne qui est blanche, qui est noire, qui a les cheveux frisés. Moi, j'ai une différence physique, donc j'ai des malformations, et c'est pas quelque chose qui est particulièrement abordé dans la série. À ce moment-là, tu me disais, à ce moment-là, on va avoir l'impression qu'on a vraiment atteint un nouveau point dans la télévision québécoise.
Oui, exactement. C'est sûr que ce serait ça l'objectif. Puis pour moi, mais pour aussi mes collègues amis comédiens, tu sais, là, il y a la deuxième saison de Vestiaire qui va sortir, donc ça va juste démontrer encore plus à quel point, ben, je pense qu'on est talentueux, même si on n'était pas des acteurs de formation, même si j'ai pas fait l'école de théâtre. Je pense pouvoir parler en toute confiance que, ben, on gère, puis on est bon tout de même, donc on pourrait jouer dans une série là, autre sans nécessairement miser sur notre handicap.
Effectivement, puis évidemment, là, ça vous aide, ça vous aiderait à gagner votre vie, parce que gagner sa vie comme étant un acteur en situation d'handicap qui ne joue que des rôles en situation d'handicap, mais bien sûr, là, il y a plus qu'un acteur en situation d'handicap au Québec, donc ça réduit ce que vous pouvez faire comme rôle, et forcément, ça fait en sorte que vous ne pouvez pas nécessairement vivre du métier. Et bon, évidemment, on en parle très très souvent, mais les personnes en situation de handicap là, ont plus de difficultés à gagner dignement leur vie, là, malgré différents talents, différentes formations. Donc, ce serait vraiment une avancée aussi au niveau du marché du travail, là, de vous permettre d'avoir des emplois dans le domaine artistique.
Mm-hmm. Ben oui, exactement, c'est ça. c'est de pouvoir pour c'est en fait ça a juste des bons côtés de pouvoir commenter à faire plus de place aux personnes en situation de handicap au grand écran puis au petit écran.
Est-ce que tu sens que ça s'en vient? Est-ce que tu sens qu'on sera là bientôt?
Déjà, avec l'arrivée de Vesta, on le sentait que ça s'en venait. Puis je veux dire là encore plus parce qu'on voit que c'est un succès. T'sais, on est allé avec une saison 2, on espère avoir une saison 3, on espère en avoir 12 également. T'sais. Ça pourrait, ça serait déjà là une belle victoire aussi. Mais oui, je pense qu'il y a une belle ouverture de plus en plus grande dans le paysage de la télé, des communications en général aussi, là.
Oui, parce que on parle de toi comme actrice, mais t'es aussi quelqu'un qui fait de la radio, entre autres. Tu fais également donc de la création de contenu, donc t'es quand même dans le paysage médiatique, dans le paysage artistique sur plusieurs plans.
Oui, exactement. J'essaie d'être un peu partout, donc sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout ça, puis ça me permet aussi de toucher un public plus jeune. Après ça, ça se reflète dans les conférences que j'ai commencé à donner dans le milieu scolaire notamment, ou même dans le milieu entrepreneurial, mais tu sais, c'est sûr que c'est adapté, là. Ça dépend quel est mon public. Mon but, c'est toujours de partager aussi la confiance en moi que j'ai, de parler, oui, de mon parcours, tout ça, de le faire avec justement des conférences sur les réseaux sociaux. Voilà, donc à la télé, à la radio, partout.
Ben, tu en parles, en fait, de ta confiance en toi. T'es quelqu'un qui sait jamais laissé abattre par ton handicap, même que tu vois ça quand même positivement, ton handicap.
Ben oui, exact, parce que j'aurais pas pu jouer dans vestiaire si je n'étais pas handicapée.
Non, mais bon point.
On fait des blagues, mais tu sais, c'est quand même vrai. Je pense que rien n'arrive pour rien, tout est en tout, et dans le sens où mon handicap qui est de naissance, ben évidemment, fait partie de ma personnalité, puis ça a fait la personne que je suis aujourd'hui, donc je m'en passerai pas. Puis tu sais, je veux dire, en ce moment, en 2025, je considère que d'avoir un handicap ou une différence, c'est ça qui te rend cool, donc je suis cool, je pense.
Oh, quand même, on est rendu là, ça devrait être cool.
Exact. Quand nous, on était au secondaire, là, c'était pas cool, tu sais, quand t'étais
marginal. Non, c'était pas cool. C'était pas cool.
C'était un peu différent, marginal. T'avais un style vestimentaire différent ou des cheveux bleus. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est le contraire. Je suis pas au secondaire, mais je suis convaincue qu'en ce moment, c'est les gens aux cheveux bleus qui sont le plus populaires. Tu sais, on dirait qu'on veut tellement se démarquer, justement. On le voit sur les réseaux sociaux. Ce besoin de validation et d'être unique. Moi, on peut dire que, ben, je suis unique. On l'est tous, évidemment. Mais moi, tu sais, mon handicap me permet de l'être d'autant plus. Donc, c'est un bonus, je trouve.
Clairement, ça te permet de te démarquer puis d'avoir des opportunités là, très spécifiques que d'autres n'auraient pas, là.
Exactement. Ça me permet de me démarquer totalement dans mon milieu professionnel, dans ma vie personnelle. Puis ça, je trouve que c'est vraiment génial.
Puis, est-ce que pour la troisième saison, donc il n'y a rien de confirmé, mais est-ce qu'il y a des projets autour de vestiaire qui sont confirmés, d'autres documentaires ou d'autres projets autour de ça ou pas encore?
Ben, je sais que dès le mois d'avril, l'envers de Vestiaire, qui est le docu, la série documentaire qui suit Vestiaire, va être diffusée sur les ondes de Radio-Canada. Je peux pas dire exactement quel jour, là, je suis perdue, mais pour en faire un peu faire suite aussi à Vestiaire, donc les gens qui auront suivi pendant 8 semaines la diffusion de la saison 1, ben, vont pouvoir découvrir nos vies. C'est un peu les behind the scenes, l'envers, ben, ça le dit, hein, l'envers de Vestiaire. Donc, on nous suit, nous, les comédiens qui font partie de la série, dans notre quotidien, comment on conduit, nos relations amoureuses, nos métiers, tout ça. C'est super intéressant, attachant et drôle. Donc ça va être diffusé au cours des prochaines semaines sur les ondes de Radio-Canada. Évidemment, la saison 2 de Vestiaire qui s'amène le 9 avril à Mi-Télé. Puis, pour l'instant, d'autres projets connexes, non. Mais on est toujours ouvert. On aimerait bien ça.
Oui, on aimerait avoir une deuxième saison de Vestiaire, l'envers de Vestiaire.
L'envers, oui.
Je pense qu'on pourrait aller plus loin avec ça, mais je lance ça dans l'univers. Là, on fera des appels après émission. Mais... Outre ça, donc, tu as dit Vestiaire, la saison 2 qui s'en vient bientôt quand même, le 9 avril. Donc, pour vous, évidemment, vous avez terminé la tournée Vestiaire depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Mais ça va être à voir là, par les téléspectateurs. D'abord, là, sur Ami-Télé, puis j'imagine par la suite que ce sera là, sur Radio-Canada dans les prochains mois.
Probablement plus l'hiver prochain. Je pense que ça serait similaire, puisque ça, la diffusion a commencé en janvier. Je pense que si une diffusion à Radio-Canada, ce serait en effet en janvier 2026. Donc, c'est pour ça que j'invite les gens à le découvrir sur Ami Télé ou même sur Tout.tv là, quand ça sera disponible. Mais c'est sûr que ça va être sur Ami le 9 avril.
Ami Télé, qui, je le rappelle, donc, est un canal que la plupart ont là, sur leur chaîne au niveau du câble. Et sinon, on peut aller sur le site Internet d'Ami Télé. Il y a tous les épisodes qui sont disponibles sur Internet gratuitement. Et tu le disais, c'est également sur Tout.tv. Donc, pour ceux qui ont Tout.tv, il y a également moyen de vous suivre et de suivre vos aventures sur Tout.tv.
Exactement. Donc, on est partout. Puis, on est bien content d'avoir cette belle visibilité-là.
Donc, ça commence le mercredi à 20h, le 9 avril, donc dans quelques semaines. Et on pourra donc suivre vos personnages et péripéties à MIT et éventuellement sur Internet et sur Tout.tv. Charlie Rousseau, merci d'avoir été là.
Ça fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir reçu.
Passe une belle journée.
Également à toi aussi. Puis bye-bye à tous les auditeurs.
Bye-bye. On rejoint maintenant Mme Véronique Vézina, directrice générale du regroupement des organismes de personnes handicapées de la région La Capitale-Nationale. Bonjour, Mme Vézina.
Bonjour, vous allez bien?
Ça va bien vous-même?
Oui, merci.
Donc, regroupement des organismes de personnes handicapées de la région La Capitale-Nationale, c'est la seule structure officielle de communication et de concertation pour les organismes de promotion et de défense des droits des personnes handicapées de la région La Capitale-Nationale, qui est la grande région de Québec. Pouvez-vous m'expliquer d'abord là, qu'est-ce que vous faites, quels sont vos services rapidement?
Nous, on n'offre pas de services directement aux personnes. On est vraiment un regroupement d'organismes. On regroupe 28 organismes là, qui sont sur le territoire de la capitale nationale. Donc, on couvre la région de Québec, Portneuf et Charlevoix aussi. Et on travaille des dossiers collectifs en défense des droits avec nos membres, mais avec différents partenaires aussi de la région, comme la Ville de Québec, le réseau de transport, le CIUS de la capitale nationale et bien d'autres.
Donc, on vous parle aujourd'hui particulièrement par rapport à l'accélération du développement des pistes cyclables. La Ville de Québec a annoncé vouloir accélérer le développement des pistes cyclables sur son territoire. Et de votre côté, vous avez lancé un mémoire sur la stratégie de sécurité routière de la Ville de Québec 2025-2029. Donc, quand on comprend là à la lecture du mémoire puis à la lecture de ce que vous avez expliqué dans les médias, que l'accélération des pistes cyclables, là, c'est quelque chose qui vous inquiète pour la sécurité des personnes en situation de handicap.
En fait, c'est inquiétant pour la sécurité de l'ensemble des piétons vulnérables, incluant les personnes handicapées. Il y a eu une accélération très importante là, depuis 2022-2023 et les aménagements ne sont pas conformes pour assurer la sécurité de l'ensemble des piétons, dont ceux qui sont plus vulnérables. Il y a des enjeux aux traverses de rue, par exemple. Il y a des enjeux aussi lorsque les pistes cyclables sont aménagées sur les trottoirs et qu'il n'y a pas de balises qui nous permettent de savoir, notamment pour une personne aveugle, si on est sur la piste cyclable ou sur la voie piétonne. Il y a aussi des enjeux d'accès au transport adapté, d'accès au transport en commun régulier là, qui sont dénotés dans la région. Ça fait quand même là près de 2 ans maintenant là, qu'on fait des pressions auprès d'eux pour qu'il y ait des projets pilotes qui soient faits, notamment pour avoir des aménagements sur trottoir plus sécuritaires, qui seraient détectables avec une canne blanche, par exemple. Mais malheureusement, là, il y a différents essais qui ont été faits, mais il n'y a pas de solution concluantes pour l'instant qui ont été implantées sur le terrain, alors qu'il y a quelque chose là, qui vient d'Ottawa qui a été proposé à la ville et que la ville tarde à tester.
On parle de quoi exactement?
Ben, c'est une bande là, qui est surélevée et qui vient délimiter la zone piétonne et la zone cyclable, ce qui fait qu'un piéton ne peut pas se retrouver dans la zone cyclable et un cycliste ne peut pas se retrouver dans la zone piétonne. Donc, ça vient protéger les piétons des vélos et ça l'empêche aussi un piéton qui, par inadvertance, se mettrait à marcher sur la piste cyclable puis qui pourrait bloquer le chemin à un vélo, par exemple.
Et j'imagine que c'est plus facile à détecter aussi pour quelqu'un qui a des difficultés visuelles, qui aurait une canne blanche, par exemple, là, parce que le rebord là, avertirait canne. Oui.
C'est ça le principal objectif, c'est que la personne puisse détecter et demeurer dans la voie piétonne plutôt que d'empiéter sur la voie cyclable et peut-être de faire même un accident là, avec un cycliste.
Et ça a été proposé donc, à la Ville de Québec et j'en comprends que ça a été rejeté. Quels sont les arguments de la Ville de Québec pour rejeter ce type d'accommodement?
Ça n'a pas été rejeté, c'est juste que ça tarde à être testé. Là, il y a des nouveaux aménagements qui vont se faire à l'été 2025. On espère que ça va être l'occasion d'enfin tester cette solution-là, puisqu'on va encore déployer près de 200 km là, de pistes cyclables cet été. Je pense que c'est une belle avenue pour l'essayer. Et ce qu'on espère surtout, c'est que si ça fonctionne bien, si c'est la solution qu'on veut privilégier, c'est que par la suite, on puisse l'implanter aussi puis faire du rattrapage sur les pistes cyclables déjà existantes qui n'ont pas ces aménagements-là.
Est-ce que c'est quelque chose, je sais évidemment là, que vous n'êtes pas experte avec cette technologie-là, mais est-ce que c'est quelque chose qui est très coûteux?
J'en ai aucune idée. Je ne croirais pas puisque la Ville de Québec a retenu l'idée de le tester. Donc, ça doit être que pour eux, ça n'engage pas des frais très élevés. Okay.
Et à part, tu sais, on parlait donc des délimitations entre le passage piéton et le passage cyclable. Quelles sont aussi d'autres recommandations que vous avez faites dans votre mémoire sur la stratégie de sécurité routière?
Bien, il y a toute la question, toujours en lien avec les pistes cyclables, il y a toute la question des aménagements des pistes sur rue qui viennent entraver l'accès au transport adapté parce qu'on a mis des bollards finalement pour empêcher les voitures d'empiéter sur la piste cyclable et les voitures taxis qui font du transport adapté ou les minibus qui font du transport adapté, bien, peuvent avoir de la difficulté à laisser les personnes à la porte. Donc, c'est plus des services de porte à porte. On demande à ce qu'ils les débarquent plus loin sur des rues qui sont perpendiculaires à l'avenue auxquelles ils auraient été débarqués. Si on veut pas que ça arrive, il faut faire des démarches. Le transport adapté doit demander de faire retirer des bollards pour que le transport adapté puisse avoir accès à un domicile ou à un commerce, par exemple. Fait que c'est des entraves qui deviennent importantes pour avoir un service de porte-à-porte en transport adapté. Et c'est la même chose lorsqu'il y a des services de transport en commun réguliers. Les autobus ne peuvent plus ou ne pourront plus, là, parce qu'encore à certains endroits, elles peuvent s'approcher. Ne pourront plus s'approcher des trottoirs. Donc, on va aménager des nouveaux quais d'embarquement qui doivent aussi être testés pour vérifier s'ils seront accessibles, notamment pour les personnes en fauteuil roulant ou pour les personnes aveugles. Mais ça va amener les gens à être obligés de traverser la piste cyclable pour monter sur le quai d'embarquement pour ensuite embarquer dans l'autobus. Ça fait qu'il y aura la nécessité de tester des ralentisseurs là auprès des arrêts d'autobus pour s'assurer que les vélos n'arriveront pas à pleine allure en même temps que les gens vont soit traverser pour aller prendre l'autobus ou pour en débarquer.
Oui, donc ça cause quand même des problèmes supplémentaires, des enjeux supplémentaires là, au niveau de la sécurité. Hein. Évidemment, là, chaque pas de plus ou chaque mètre de plus qui doit être fait pour une personne en situation de handicap ou une personne vulnérable pour se rendre jusqu'au transport adapté, ben ça peut créer évidemment des dangers, des chutes, toutes sortes de problèmes. Et on sait que évidemment le transport adapté, malheureusement là, souvent font un peu avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire que s'ils sont pas capables d'embarquer une personne, vont simplement là peuvent simplement repartir, et donc effectivement ça cause des problèmes au niveau de la qualité du service.
Ça cause des problèmes au niveau de la qualité du service, mais je vous dirais que si on va plus loin, c'est au niveau de la participation sociale, parce qu'on commence à avoir un certain isolement des personnes qui préfèrent ne plus sortir parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'être en sécurité si elles vont à l'extérieur. Donc, nous, ce qu'on craint, au-delà des accidents potentiels, c'est aussi qu'il y ait un plus grand isolement des gens qui vont préférer rester chez elles que de sortir puis risquer de côtoyer des cyclistes et d'avoir un accident.
Oui, vous avez raison de le mentionner, hein. Juste la crainte souvent suffisante pour rester à la maison, puis ça fait en sorte, évidemment, on le sait, là, des personnes qui sont isolées ont beaucoup plus de problèmes de santé mentale, de problèmes physiques également. Donc, c'est une roue qui tourne dans le mauvais sens, ça.
Effectivement, puis ça peut engendrer toutes sortes d'autres problèmes physiques ou des problèmes de santé importants, le fait qu'elle ne soit pas. Il y a la santé mentale, mais il y a la santé physique aussi,
oui.
La santé psychologique qui est importante. Donc, il faut prendre soin de ces gens-là puis leur permettre d'être en sécurité à l'extérieur pour qu'elles veulent encore sortir, vaquer à leurs occupations, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les études ou simplement pour faire des activités sociales.
Donc, pour terminer, pour ceux qui voudraient consulter votre mémoire sur la stratégie de sécurité routière que vous avez déposée là, pour 2025-2029, où est-ce que c'est disponible?
Notre mémoire est disponible sur demande. Là, vous pouvez nous écrire à l'adresse d'Europe03, le ROP03@ROP03.com. Ça va nous faire plaisir de vous le transmettre.
Parfait. Merci beaucoup, Madame Vézina. Vous êtes directrice générale du regroupement des organismes de personnes handicapées dans la région de la Capitale-Nationale. Et on espère qu'avec le beau temps viendra là, des négociations et éventuellement des actions là, pour permettre à tout le monde de bénéficier donc de la rue, des trottoirs de façon sécuritaire.
Je vous remercie. Au revoir.
Merci. Bonne journée. Après la pause, on rejoint la responsable de la politique du plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour 2024-2026 dans la ville de Baie-Comeau, Amy Foster.
Vous écoutez Sans détour.
On rejoint la responsable de la politique et du plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour 2024-2026 dans la ville de Baie-Comeau, Amy Foster. Bonjour, Amy.
Bonjour.
Madame Foster, donc, vous êtes responsable du plan d'action à l'égard des personnes handicapées qui est en cours, en fait, jusqu'en 2026.
Oui.
En quoi votre plan d'action est-il... différent de ceux qu'on trouve ailleurs? En quoi c'est quelque chose qui est innovant?
Je vous dirais je peux pas dire qu'il est similaire, mais il est travaillé de la même manière que les autres municipalités. Mais en quoi il est innovant? En fait, c'est que on travaille là de concert avec nos organismes du milieu qui nous donnent exactement les besoins dont ils ont besoin. Puis on vient répondre le mieux qu'on peut là.
Il y a quelque chose aussi de particulier, en fait, c'est que bien que c'est élaboré donc pour une période de 3 ans, vous allez présenter un bilan annuel des mesures prises et de projection des mesures à venir en vertu de la loi sur un exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Donc, à chaque année, en fait, vous faites un bilan annuel de ce qui a été fait puis de ce qui reste à faire.
Oui, exactement. Ben en fait, comme vous mentionnez là, en fait, nous on travaille avec l'OPHQ. Puis l'obligation, c'est de déposer annuellement un bilan et un plan d'action. Donc nous, notre particularité, c'est qu'on a décidé que notre plan d'action, on voulait l'avoir sur une longue période. On voulait avoir une vue d'horizon. Donc, on l'a mis sur 3 ans, mais ça n'empêche pas qu'on doit à chaque année redéposer le plan d'action qui a été révisé. Oui, merci. Et on le dépose, puis en tant qu'à le déposer, ben, on dépose le bilan en même temps. Là.
Et en gros, là, quelles sont les priorités là, pour Yvette de Baie-Comeau entre 2024 et 2026?
En fait, une des priorités, c'est la consolidation de ce qui existe déjà. Pourquoi est-ce qu'on parle de consolidation? C'est que ce dossier-là de plan d'action a changé a changé de plusieurs mains là, au cours des dernières années. Donc, moi, quand j'ai récupéré le plan d'action, j'ai fait une vue, un tour dans tous les services pour savoir. OK, qu'est-ce qui est encore bon, qu'est-ce qui est à travailler, qu'est-ce qui est à faire? Et avec ça, j'ai été capable de voir tout ce qui était à faire puis qu'est-ce qui était à consolider. Parce que je vous donne un exemple. C'est facile de dire, par exemple, de promouvoir la carte d'accompagnement loisirs. Mais au-delà de la promouvoir, ben est-ce que nos employés savent ce que c'est la carte accompagnement loisirs? Est-ce que nos bâtiments affichent le collant d'accompagnement loisirs? Donc, c'est vraiment, c'est quand je parle de consolidation, c'est vraiment de s'assurer que l'action qu'on fait soit au meilleur de ce qu'on peut faire.
Et vous parlez également, il y a de l'accessibilité universelle, donc le fait que, évidemment, il y a tous les endroits publics doivent être accessibles. Et il y a un peu de rattrapage à faire dans certains cas parce que ça n'a pas été pensé pour être accessible universellement. Où en êtes-vous pour la ville de Baie-Comeau?
En fait, on a beaucoup de travail à faire parce que il y en a beaucoup qui a été fait, mais il en reste encore beaucoup à faire parce que on a des vieux, concernant la ville, là, on a des très vieux bâtiments qui, comme vous mentionnez, n'ont pas nécessairement à l'époque été pensés pour accueillir des personnes avec en situation d'handicap, peu importe c'est quoi l'handicap. Donc, il y a des bâtiments qui sont accessibles, mais on en a plein d'autres qui ne sont pas totalement accessibles pour tous. Donc, on est beaucoup là dans ce volet-là. Puis en plus, à la ville de Baie-Comeau actuellement, on est dans un processus de révision de tous nos plateaux, de tous nos bâtiments pour voir comment est-ce qu'on peut rendre nos plateaux le plus efficace et efficient possible. Fait que dans cette action-là de rendre tous nos plateaux accessibles et efficients, on vient, lorsqu'on va, par exemple, faire une réfection de bâtiment, on va venir intégrer le volet accessibilité là, pour ce bâtiment-là.
Et vous dites quelque chose qui est intéressant quand même parce que vous dites que l'accessibilité universelle, c'est pas seulement pour les handicaps physiques. Donc, il suffit pas d'avoir une rampe à l'entrée puis une porte automatique. On parle également d'handicaps qui sont moins physiques, qui sont moins visibles, auxquels on doit s'adapter également et parfois on est moins conscient de ça.
Oui, exactement. Puis c'est pas, je ne crois pas, je fais confiance en l'humain et je ne crois pas que ce soit fait de manière méchante, là, tu sais,
de mauvais choix. Hein.
Oui, exactement. Je crois pas que ce soit fait de manière négative, mais malheureusement, effectivement, la majorité des gens, lorsqu'on mentionne une personne en situation de handicap, vont penser à quelqu'un en chaise roulante. Mais c'est bien plus large que ça. Puis ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, oui, c'est beau d'avoir une rampe, puis c'est beau d'avoir une porte automatique, mais la personne qui est pas en chaise roulante, mais qui a des difficultés visuelles, son besoin n'est pas répondu à elle, là, tu sais. Donc, il faut vraiment aller plus loin, puis penser plus loin que ça. On n'a pas la prétention de penser qu'on est les meilleurs dans le domaine, mais on a la prétention de penser qu'on a une très grande volonté d'agir.
ça commence là, en fait, puis par la suite, quand j'imagine que vous avez quand même des partenaires qui, eux, là, sont spécialistes de la question ou s'y connaissent bien là, au niveau de l'accessibilité.
Oui, exactement. Tantôt, comme je mentionnais, on a une table là, avec l'ensemble des organismes pour les personnes handicapées de la Manicouagan avec qui je m'assois régulièrement et avec qui on parle. Puis en plus, à la ville, on travaille avec des ingénieurs. Donc, ces gens-là connaissent là, les... les normes, je dirais, de base là, d'accessibilité lorsqu'on fait justement de la réfection de bâtiments.
Oui, donc en fait, ça aide d'avoir des gens là, qui sont avec vous là, pour vous aider dans tout ça. Et est-ce qu'il y a également des personnes en situation de handicap qui sont consultées à l'occasion?
Oui, il y en a des personnes en situation de handicap qui sont consultées. Des fois, on peut, par exemple, tenir une activité avec les organismes dont je vous parlais. Donc, ces organismes-là peuvent faire une activité. Nous, on joint à eux et on va aller consulter les gens. Sinon, tu sais, dernièrement, moi, j'ai consulté un homme qui vient tout juste, là, en fait, d'avoir qui vient d'être déclaré, en fait, avec une situation de handicap. Donc, j'ai pris le temps de l'appeler, de lui informer ce que la ville pouvait faire, de lui donner de l'information, puis de l'informer que s'il y avait des besoins, s'il y avait des situations X, ben, de communiquer avec moi, puis de voir, puis que la ville allait voir, en fait, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour le soutenir là-dedans.
Est-ce que le fait d'être en région, donc d'être peut-être un peu moins gros, d'être en une équipe un peu plus réduite, c'est un avantage également au niveau de la proximité avec les gens, justement?
Oui, bien, c'est sûr que c'est un avantage pour la proximité. En fait, on est une petite ville, donc tout le monde, entre guillemets, là, tout le monde se connaît. Par contre, d'être un petit milieu, bien, au niveau de l'accessibilité, c'est plus difficile. Donc, même si on veut bien faire, dans un plus petit milieu, peut-être que les sommes financières sont peut-être pas tous là, les gens sont peut-être pas bien tous conscientisés, mais ça n'a pas nécessairement rapport au milieu, mais il y a comme des points pour et des points contre là, d'être un petit milieu pour l'accessibilité, là.
Et qu'est-ce qui reste à faire, selon vous, au niveau de l'accessibilité, là, tant dans votre ville là, qu'en général?
Oh mon Dieu, il reste tellement de choses. puis je dis pas ça pour décourager, là, mais il reste énormément de choses. Ne serait-ce que de... Ben, en fait, je crois que la première des choses, c'est de sensibiliser l'ensemble des citoyens aux conditions des personnes en situation de handicap. Il y a encore beaucoup trop de gens qui ont des préjugés. Il y a encore beaucoup trop de gens qui comprennent pas ce que c'est un handicap, qui comprennent pas ou qui veulent pas comprendre les contraintes vécues. Donc, il y a ça. Puis sinon, ben c'est sûr qu'il y a un autre enjeu majeur, puis on entend parler à la télé aussi, ben c'est tout ce qui est l'accessibilité des lieux. Donc, je crois que ça, là, on en parle, puis on va continuer d'en parler, mais je pense que c'est les deux nerfs de la guerre.
Oui, puis surtout, on en parlait également la semaine dernière, mais les régions éloignées, là, c'est quand même difficile au niveau du transport adapté, du transport entre les régions. Ça reste un enjeu, là.
Oui, complètement. Ça, c'est vrai que c'est propre à notre secteur. Là, tu sais, nous, au Baie-Comeau, on est une ville centre. On a, je les ai pas comptés, mais on a 5 ou 6 villages qui sont autour de Baie-Comeau. Et oui, on a du transport adapté, mais tu sais, le transport adapté fonctionne très bien dans la ville, mais pour aller à l'extérieur, ben malheureusement, ces gens-là doivent s'adapter encore au transport adapté.
Oui, mais ça fait partie des enjeux là, de plusieurs municipalités. On en parlait encore la semaine dernière. Là.
Oui.
Ça devient extrêmement difficile là, parce qu'évidemment, là, les transports adaptés sont plus municipaux. Là, donc, entre les villes, c'est un peu difficile. Puis, évidemment, il y a toute la question du financement des transports adaptés, du service et tout ça, là. Évidemment, on pourrait en parler longtemps, mais effectivement, ça cause des problèmes supplémentaires, particulièrement pour les gens qui sont en région. De votre côté, est-ce que vous avez quand même un financement qui est acceptable pour faire vos projets? Est-ce que de ce côté-là, ça va?
En fait, cette année, le conseil municipal nous a accordé un petit budget qu'on n'avait pas nécessairement avant. Ben, en fait, on avait les sous, mais les sous étaient pris à même les budgets des services. Donc là, cette année, ils nous ont accordé là un budget supplémentaire pour faire certaines actions. Est-ce que c'est un... Tu sais, oui, on pourrait en avoir plus, mais actuellement, avec la capacité financière, la capacité d'agir qu'on a, ben moi, je considère qu'actuellement, ça va bien. Mais tu sais, il en faudrait toujours plus. Là.
Oui, on pourrait toujours en avoir plus, mais après, on a des ressources limitées, puis
il y a
différents besoins dans les villes. Là.
C'est ça.
Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais quand même, tu sais, je sens que vous avez une volonté de faire les choses, puis d'être innovant. Malgré le fait, vous l'avez dit, que vous êtes une petite ville,
oui.
Je pense que ça ne vous arrête pas là, au niveau de vouloir bien faire les choses.
Oui, exactement. Puis, tu sais, je crois que la clé dans tout ça aussi, c'est le partenariat avec le milieu. Mais au-delà de parler avec le milieu, il faut les écouter, hein. Faut pas juste les.
Oui, mais ça, c'est souvent un bon point. En fait, on veut bien faire les choses, mais on n'écoute pas.
C'est ça.
Puis ça vient évidemment à faire des choses un peu tout croche et à devoir refaire des choses parce que ça a été mal fait, parce qu'on n'a pas écouté. Hein?
Exactement. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, on n'est pas parfait, mais moi personnellement, je trouve que mon appareil municipal est très à l'écoute. Là, donc, tu sais, on parlait de faire avec les moyens qu'on a, mais advenant le cas qu'il y a une situation qui se présente puis qui est vraiment une problématique pour un citoyen, on va faire en sorte d'agir malgré le fait qu'on est peut-être plus, tu sais, qu'on n'avait peut-être pas prévu la situation. Donc, moi, je sens que notre appareil municipal est très, très ouvert aussi là, à bouger là-dedans, là, malgré les contraintes financières.
Bien, déjà, que les citoyens et citoyennes soient consultés, c'est déjà un bon début là, que plein de grandes villes n'ont pas encore compris. Hein.
Non, c'est ça, exactement. Puis ce qui est le fun dans notre milieu, tu sais, tantôt on parlait de petits milieux,
oui.
Tu sais, il y a des... un citoyen, par exemple, qui appelle puis qui fait une requête citoyenne, par exemple, d'un trottoir qui est brisé à... Je sais pas où, là.
Oui.
Ben ça, pour nous, une requête, ça devient nécessairement une action dans notre plan d'action, là.
Oui.
Tu sais, je sais pas comment ils peuvent... Je sais pas si dans les grandes villes, comment ils peuvent gérer les millions de requêtes qui rentrent.
Ben voilà, ils en perdent. Vous voulez pas, ils en
ben,
perdent.
Ben c'est ça, là. Tu sais, nous, on en a énormément. Je dis pas qu'on en échappe pas de temps en temps, mais on en a énormément, mais il y en a certaines qu'on est capable de prendre qui notent dans les plans. Fait que ça, c'en est tout, veux pas, une manière de consulter aussi nos citoyens, là, tu sais.
Oui, puis c'est un avantage d'être une petite ville dans le
exact.
Fait où vous en avez quand même moins que les autres. Et puis, il y a quand même une certaine proximité puis une certaine humanisation peut-être des services par rapport aux grandes villes. Hein.
Oui, complètement. Puis je dirais qu'il y a un service personnalisé aussi là, qui se développe pour certaines situations. Là. Donc, c'est vraiment... Il y a des pour, des contre d'être un petit milieu, mais il y a beaucoup de pour. Il y a beaucoup de pour agir dans le dossier. Là.
Donc, Mme Foster, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes responsable de la politique et du plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour 2024-2026 dans la ville de Baie-Comeau.
Bien, ça fait plaisir. Merci pour votre temps.
On suivra avec plaisir ce qui va être fait là, d'ici 2026 au niveau de l'accessibilité. Et puis, merci d'avoir partagé avec nous.
Bien, merci à vous.
De retour avec la revue de presse. On commence donc avec le vieillissement qui serait le statut socio-économique serait plus important que la génétique. C'est ce qui a été trouvé par des chercheurs des universités d'Oxford, qui est au Royaume-Uni, d'Harvard et du MIT, et de Montpellier. Donc, ces quatre universités, qui sont un peu partout là, dans le monde, qui ont analysé le génome de l'exposition, c'est-à-dire l'ensemble d'expositions environnementales que nous subissons au courant de notre vie sur plus de 400 000 anguilles, sur un suivi qui a duré environ 12 ans. Près de 32 000 personnes dans cette étude sont décédées durant l'étude et trois quarts sont morts de façon prématurée, c'est-à-dire avant l'âge de 75 ans. Les auteurs ont estimé l'influence de ces morts prématurées de 164 facteurs environnementaux. Les trois facteurs les plus fortement corrélés au décès étaient le tabac, le fait d'être locataire et le fait d'être en situation de pauvreté. Donc, évidemment, le tabac, on n'a pas à l'expliquer, hein, c'est quelque chose qui nuit à la santé des personnes au niveau, évidemment, de leurs poumons, de leurs organes, mais il y a quelque chose quand même qui est très intéressant au fait que les deux autres facteurs les plus fortement corrélés avec le décès prématuré, c'est le fait d'être locataire et le fait d'être en situation de pauvreté. Ce que ça montre, en fait, c'est qu'effectivement, quand on est en situation où on est plus précarisé dans la vie, donc on est aussi atteint de plus de stress, on a plus de difficultés à vivre au jour le jour. C'est quelque chose aussi au niveau peut-être de l'alimentation. Ça peut toucher au niveau de l'alimentation, au niveau des habitudes de vie, parce que évidemment là, ça prend énormément d'argent pour vivre, pour bien vivre, pour vivre en santé, parfois même là, pour faire plus d'exercices, pour avoir accès à des médecins. Donc, forcément, ce que ça vient montrer en fait, c'est qu'effectivement le statut social-économique est quand même un facteur qui est plus important que ce qu'on pensait pour les décès prématurés. On pensait surtout à la génétique, et c'est vrai que la génétique joue un rôle, mais quand même, le fait d'être en situation de pauvreté, d'être locataire de logement, qui est aussi corrélé au fait peut-être d'avoir moins de revenus, bien que ce soit pas toujours le cas, entendons-nous, mais quand même, ça peut mener à des décès de façon prématurée. Donc, les revenus influencent la vitesse du vieillissement du corps. Pour ce faire, les auteurs ont aussi analysé le vieillissement biologique de 45 000 participants, dont ils avaient les données socio-économiques. Et sur 85 facteurs qui ont été analysés, 28 d'entre eux avaient un impact sur la vieillesse du corps et 25 étaient associés à la mortalité. Donc, une deuxième analyse confirme les premiers résultats montrant que les facteurs non génétiques les plus protecteurs sont d'avoir un emploi, d'avoir un haut revenu, de faire de l'activité physique et de vivre en couple. Ça nous emmène à être évidemment moins isolés et à avoir plus de facilité et moins de stress dans la vie. Donc, c'est ce qui a été trouvé là, par l'étude qui a été fait là, par les universités d'Oxford, d'Harvard, du MIT et de Montpellier. Évidemment, là, ce sera à confirmer par d'autres études et à creuser, mais ça vient un peu défaire l'idée comme quoi la génétique est responsable de la plupart des décès prématurés. On parle également de Naviance, qui est un nouvel outil pour les usagers d'Exo, allant des imitations visuelles. C'est Exo qui vient d'annoncer le déploiement de projets pilotes Naviance destinés notamment aux personnes qui ont des limitations visuelles après un essai concluant. L'innovation s'étendra un peu partout sur le réseau. Donc, Naviance est une solution d'aide sonore et visuelle qui fournit aux usagers des informations en temps réel sur l'état du service et des informations pour les aider à se diriger dans les gares et les terminus. La solution Naviance a été largement adoptée dans d'autres villes, dont Barcelone, Madrid, New York, et maintenant, évidemment, elle sera implantée dans la société, donc au Québec. Les usagers doivent télécharger une application gratuite et utiliser la caméra du téléphone afin de repérer jusqu'à 15 mètres de distance les codes de couleur qui s'apparentent à des codes QR qui sont étalés sur les autobus, les trains et les gares. Ça les aide à se repérer dans l'espace. Ce sera aussi à bord des autobus et des trains afin de permettre aux usagers de savoir en temps réel quels sont les prochains arrêts sur leur trajet. C'est maintenant disponible dans les secteurs couvrant les gares des lignes de Mont-Saint-Hilaire, de Mascouche, ainsi que les autobus desservant la vallée du Richelieu et la ligne 15 sur Pantigny. Le projet pilote va s'échelonner sur 18 mois. Cette expérimentation souhaite ajouter une solution pour les utilisateurs, oui, ayant une limitation visuelle. On veut tester l'utilité de ce type d'outils avec des personnes qui ont des limitations cognitives ou qui parlent une autre langue. L'application, en ce moment, offre 36 langues, donc on pourra éventuellement élargir à d'autres personnes, donc pas seulement aux personnes qui ont des difficultés visuelles, mais à d'autres personnes qui auraient besoin d'un peu plus d'aide au niveau de se repérer dans l'espace, dans les gares et avec les autobus. C'est particulièrement intéressant, on le disait, pour les personnes qui ont des problèmes cognitifs, mais également peut-être pour les personnes qui ont des difficultés au niveau d'un handicap intellectuel. Aussi, Radio-Canada veut vous entendre, donc on a un sondage de Radio-Canada, une première version du questionnaire dans le cadre des consultations menées par les diffuseurs publics comportant des enjeux d'accessibilité qui ont été corrigés. Radio-Canada invite donc les personnes racisées, les personnes en situation de handicap et les personnes de la communauté 2LGBTQIA, ainsi que les membres des Premières Nations, à s'exprimer sur sa programmation et ses contenus. On veut vous entendre donc sur la pertinence des émissions et des contenus de Radio-Canada et si vous sentez que ces dernières représentent votre réalité. Radio-Canada donc fait des efforts d'accessibilité afin de devenir une organisation plus inclusive par rapport à son mandat. Donc, pour les personnes que ça pourrait intéresser, c'est sur le site de Radio-Canada que ça se trouve. C'est une première version donc du sondage qui va pouvoir mener à des changements et éventuellement donc perfectionner l'accessibilité de Radio-Canada. Il y a un questionnaire qui est en ligne qui peut être consulté. Vous pouvez également écrire à communication avec un S à commercial@radiocanada.ca si vous avez des questions. Dans le même ordre d'idées, on recherche des participants pour une étude à l'école d'optométrie de l'Université de Montréal. On cherche des personnes ayant une basse vision afin de procéder à une évaluation effectuée par des étudiants en orientation et en mobilité. Ce sera en avril, le 9 avril exactement, entre 8h et midi. Les évaluations consisteront en un entretien, une évaluation de vision fonctionnelle et une évaluation de déplacement d'une durée de 2 heures avec un professeur. Donc, vous aurez accès évidemment aux résultats de ce qui aura été fait par les étudiants et les étudiantes. Donc, ça pourrait vous aider au niveau de connaître vos forces et vos enjeux au niveau des déplacements, de l'orientation. Et évidemment, ça aide les étudiants de l'Université de Montréal à mieux connaître leur métier et éventuellement à apprendre à traiter avec des personnes qui ont un handicap visuel. Donc, pour participer, vous pouvez contacter l'Université de Montréal. Et finalement, donc, les feux sonores de RAM veut vous entendre. Donc, le site du RAM veut avoir des études sur les feux sonores qui ont mené et en quoi c'est un enjeu pour les personnes en situation de handicap. Vous pouvez donc joindre le RAM, le RAAMM, pour des activités d'échange au niveau d'entendre votre opinion sur les feux sonores. L'inscription est gratuite et ça se fera en ligne, donc le 17 mars, vous pouvez communiquer avec le RAM pour plus de détails. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est la fin pour Sans détour. Merci à Mathieu Tessier, à la régie, à Claire Guérin à la recherche, et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine!